Nous sommes au Festival de la bande dessinée d'Angoulême, sur le stand de Rue de Sèvres, avec Franck Biancarelli pour le nouveau volume de la série Infinity 8, à savoir Connaissance Ultime. Bonjour.
Eh bien, bonjour.
Comment est-ce que ce projet est arrivé jusqu'à vous? Parce qu'on sait que c'était un gros projet pour Rue de Sèvres, avec des scénaristes un peu différents, avec toujours Lewis Trondheim, et à chaque fois un dessinateur différent. Comment est-ce que vous êtes arrivé sur Infinity 8?
Oh, alors moi, très simplement, et il y a maintenant, ça doit remonter à 3 ans, facilement 3 ans, peut-être même un petit peu plus. En fait, j'ai tout simplement reçu un mail de Lewis qui m'a demandé si j'acceptais de participer à ce projet. Et ça enfin, j'avais vraiment très envie de travailler avec lui parce que j'ai beaucoup de respect pour son travail, même de l'admiration en fait. Et donc j'ai dit oui. Il m'a rapidement expliqué le sens du projet. J'ai dit un oui de direct, quoi, sans vraiment trop réfléchir. J'étais assez enthousiasmé par l'idée de travailler avec lui. Voilà, tout simplement donc, par mail.
Il vous a raconté toute l'histoire du début jusqu'à la fin ou juste votre épisode?
Alors, à cette époque-là, il m'a pas raconté grand-chose. D'ailleurs, à cette époque-là, je voudrais pas dire de bêtises. J'ai déjà dit ça hier. À chaque fois, je prends quelques précautions oratoires. Je pense qu'à cette époque-là, même Comics Bureau devait gérer ça, mais Olivier Vatine n'était pas forcément autant impliqué que ça. Il était plus impliqué après. Donc, c'était vraiment au tout début, hein, quand j'ai répondu. Donc, à cette époque-là, on était vraiment aux prémices. Donc, il m'a pas expliqué grand-chose, à part juste me dire, moi, j'ai cette idée. Il y a 8 personnes. Est-ce que ça t'intéresse? C'est le temps un bouquin, voilà. Un peu plus tard, facilement 6 mois, peut-être même 1 an plus tard, je suis allé chez lui. Il avait déjà travaillé avec Emmanuel. Et là, par contre, je lui ai demandé de me raconter tout ce qu'il y avait avant moi. Je ne sais pas s'il m'a raconté les 5 tomes, je ne me souviens plus à vrai dire, mais il m'a raconté la trame générale de tout ce qui se passait avant moi. Et même un petit peu l'album suivant, celui de Boulet, voilà. Voilà, donc ça s'est fait en 2 temps. Premier temps, non, j'ai dit oui à Lewis. Et deuxième temps, effectivement, là, on est rentré un peu plus dans le boulot de façon un peu plus sérieuse, quoi. Voilà.
Et du coup, c'est vous qui avez choisi le 6e volume ou il vous a pas imposé, mais orienté sur ce tome-là?
Oui, ça s'est imposé comme ça parce que pourquoi? Mais d'abord, il a parlé avec beaucoup de gens. Je pense qu'il y avait d'abord une logique marketing, c'est à mon avis que Zep se retrouve en 1. Je pense que c'était vraiment une logique marketing. Ensuite, j'imagine qu'Olivier Vatine arrive très vite. Ça aussi, ça avait du sens, quoi, quand même, puisqu'il est très impliqué dans le projet. Et puis après, pour les autres, je sais pas exactement comment ça s'est fait. Est-ce que c'est parce que certaines parties s'imbriquaient mieux à tel ou tel moment? Bon, moi, le 6, ça m'allait. Hein. C'était très bien. Ça tombait bien aussi pour mon agenda. Que ça soit pas trop près. Voilà, si mon album était sorti dans les 3 premiers, ça m'aurait embêté. À partir du 4, ça commence à aller, mais donc voilà, c'était parfait pour moi, le 6.
Au niveau style graphique, comment ça se passe? C'est aussi un choix de Lewis Trondheim ou est-ce qu'on vous laisse un peu carte blanche parce qu'on a des styles vraiment très marqués et très différents entre chaque album de Infinity 8?
Moi, je me suis pas trop posé la question du style. J'ai très vite vu ça comme beaucoup de BD que je lisais quand j'étais jeune, c'est-à-dire du comics américain. J'ai très vite pensé à des gens comme Michael Golden ou comme Rick Leonardi. Les gens qui lisent du comics savent à peu près qui sont ces auteurs, des auteurs des années 80-90. Je savais, sans en avoir parlé avec lui, mais je me mettrais ma main à couper que ce sont des références au sens large de Vatine. Bon, j'avais l'impression que ces images-là me venant à la tête, je serais pas hors sujet, quoi. Donc voilà, ça c'est vraiment. J'ai envoyé quelques dessins à Lewis très vite, ça lui a convenu, et puis voilà, on est parti là-dessus.
Est-ce que vous avez eu un petit mot sur peut-être pas le scénario, mais on va dire sur la réalisation ou une partie mise en scène, parce que c'est pas si facile que ça. Infinity 8, déjà, il y a tout le début qui est toujours pareil, donc faut accrocher le lecteur pour que ce soit pas de la redite et que ce soit pas pénible. Et après, vous avez plein de séquences qui sont soit du gros plan, soit des extérieurs dans l'espace. Et je pense que entre une description et vous une réalisation, il n'y a pas forcément la même idée en tête.
Alors, je dirais que c'est l'album où, de tous les albums que j'ai fait, maintenant ça fait quand même 23 ans que je fais ce métier, c'est l'album où je me suis calé le plus au découpage du scénariste. Pour 2 raisons. D'abord, quand je l'ai lu, il m'a paru évident. C'était pour moi limpide, l'esprit de Lewis était très clair. Donc à un moment donné, il n'y a pas non plus de raison compliquée, un truc qui est simple, quoi. Voilà, ça c'est la première vraie raison. Et la seconde vraie raison aussi, c'est que je me suis dit que si on allait trouver une unité, c'était dans la narration. Je ne savais pas ce que feraient les autres, mais j'imagine J'imaginais à l'époque qu'il respecterait quand même malgré tout la narration de Lewis. Et je me suis dit que si on trouvait une unité dans la série, elle était là. Donc c'était une raison supplémentaire de ne pas chambouler. Donc honnêtement, toute la partie narrative est quasiment gérée par Lewis, je vous dis pour ces deux raisons-là.
La représentation graphique des deux personnages, pareil, c'est très très directif. Parce qu'on se retrouve avec le personnage féminin principal qui change de tête quand même à chaque fois.
Non, là par contre j'ai eu droit à choisir ce que je voulais. En fait, la première chose que j'ai dite à Lewis, c'est, j'ai dit, tu sais, moi ça fait longtemps que j'ai envie de dessiner un personnage noir. Donc est-ce qu'elle peut être noire? Il me dit, ben non, parce que ça vient d'être choisi par Martin Tristam pour le tome 4. Ah bon? Alors j'ai dit, ben j'aimerais bien qu'elle soit. Je sais pas si c'est moi qui dis j'aimerais bien. On a un tout petit peu discuté, on est tombé sur l'idée de faire un personnage maghrébin en fait. Voilà, comme je le dis à la fin, c'est pour ça que au départ, c'était plutôt là-dessus, puis le personnage a évolué comme ça. Mais donc ça s'est fait très librement. Et le deuxième personnage, en fait, c'est une idée d'Emmanuel Guibert. Emmanuel et moi, on se connaît relativement bien, quoi. On n'est pas amis, mais on se connaît relativement bien. Et on est tous les deux fans d'une histoire d'Alex Toff ou Tot, comme on dit en français. Moi, je dis Tot, mais bon, voilà. Alex Toth est un très grand dessinateur de bande dessinée des États-Unis, et il y a une histoire qu'il a faite dans les années 80, je dirais, qui s'appelle Daddy and the Pie, en français Papa et Pie, quoi. Et là, il y a un personnage d'extraterrestre, longiligne, etc. Et comme il savait que j'adorais cette histoire, que lui il aimait beaucoup aussi, c'est lui qui a proposé à Lewis de joindre un personnage comme ça. Et moi, je me suis calé sur ce personnage, mais émotionnellement, hein, pas physiquement, mais je me suis calé sur ce personnage. Donc non, là, ça vient pas de Lewis. En fait, en l'occurrence, voilà, ça vient d'Emmanuel et de moi. Ben, Lewis a accepté, évidemment. Non, c'était assez libre. Hein. C'est une série sur laquelle on s'est retrouvé assez libre, à part, effectivement, il fallait que l'Infinity soit ressemblant, des petits détails comme ça, quoi. Mais les petits vaisseaux dans lesquels ils se déplaçaient, il fallait aussi qu'il y ait une cohérence. Donc, Olivier Vatine m'avait fourni à moi, et j'imagine aux autres aussi, un petit modèle en 3D. Donc, voilà, je faisais bouger mon modèle en 3D, puis je redessinais. Mais à part ces petites choses-là, non, très libre, en fait.
Des scènes dans l'espace, des scènes après à l'intérieur, sans trop raconter, avec des hommes végétaux. Qu'est-ce qui vous fait plaisir pas le plus, parce que c'est un peu comme vous demander lequel des doigts vous préférez, mais est-ce que c'est un plaisir différent?
C'est une très bonne question et j'ai une réponse en plus. Donc ça tombe bien, vous voyez, j'ai une réponse. Non, en fait, quand Lewis m'a raconté l'histoire en général, et même mon tome, avec Emmanuel, ils avaient une discussion. Sur cette discussion, Lewis avait brodé. Et nous, on a retravaillé un petit peu ensemble le scénario, même si mon apport, c'est Lewis qui est le scénariste, hein, vraiment. Mais bon, il s'avère que pendant une journée, on a un tout petit peu reparlé. J'avais la sensation que c'était trop minéral et trop froid, en fait. Et c'est moi qui lui ai proposé l'idée d'une respiration comme ça, avec un monde végétal, une sorte de petit Éden de verdure. Donc ça, c'est une de mes propositions. Sauf que moi, au départ, j'ai proposé ça juste, encore une fois, comme je reprends ce mot, comme une virgule, quoi. Lewis a rebondi dessus de façon beaucoup plus intelligente, en fait, et on a fait quelque chose qui est au centre de l'album. Mais j'avais la sensation, et manifestement Lewis a dû l'avoir aussi puisqu'il l'a fait, j'avais la sensation qu'on était dans quelque chose de trop froid. J'avais besoin de ça, quoi. Voilà. Donc c'est mon petit apport, on va dire, sur le scénario. Donc c'est ça que j'ai préféré dessiner, du coup, puisque ça me paraissait important que ça y soit. Donc, très très important.
Ça vous parle, ces histoires de partir dans l'espace comme ça et éventuellement avoir le même pouvoir que le capitaine du vaisseau qui peut avoir 8 tentatives? On ne sait pas si ça se terminera bien d'ailleurs, parce que c'est bien d'avoir 8 chances, mais si c'est 8 échecs, c'est un peu frustrant.
La couverture du tome 8 donne déjà un petit peu une idée de comment ça va finir, mais une indication en tout cas. Alors, je vais vous répondre deux choses un petit peu contradictoires, mais en fait, moi, a priori, ce que j'aime raconter, c'est ce que j'appelle le contemporain. Le contemporain, ça peut aller des années 30 jusqu'à dans 20-30 ans, parce que les années 30, par exemple, mes grands-parents étaient jeunes à ce moment-là. J'ai connu des gens qui ont vécu ces années-là. Je sais comment ils sont faits dans leur tête, toutes ces choses-là. J'ai besoin de me projeter dans la tête des personnages. Donc, pour moi, c'est le contemporain qui est le plus simple, parce que je comprends quelqu'un, je sais les aspirations. Voilà, si je rentre pas un peu dans la tête des personnages, c'est dur pour moi de dessiner. Donc, sur le principe, j'aurais plus de mal à faire une histoire qui se passe au 5e siècle ou une histoire qui se passe très loin dans le futur comme ça, qu'une histoire contemporaine. Donc la première réponse, c'est non, ça ne me parle pas. Mais en fait, la deuxième, c'est ce qui me parle beaucoup, c'est le scénario. Si quand je lis le scénario, je suis attiré par le scénario, cette première chose dont je vous parle s'évacue assez vite. Voilà. Alors, au bout du compte, si on fait le compte de tous mes bouquins, on s'apercevra qu'il y a plus de bouquins contemporains qu'autre chose. Malgré tout, pour cette première raison. Mais c'est pas une exclusive chez moi, la preuve. Quand j'ai lu le scénario, ça m'a plu, j'étais content, j'étais très content de travailler avec Lewis, donc j'étais très motivé. Donc voilà quoi. C'est pas ce que je préfère, mais si le scénario me plaît, j'y plonge.
Sur la représentation graphique justement de cet agent de l'Infinity 8 qu'on suit depuis le début, vous nous disiez donc des origines maghrébines, mais elle a l'air très baroudeuse, aventurière, etc. Ce qu'on n'a pas forcément retrouvé, on l'a retrouvé un peu rebelle, etc., mais elle était toujours en tenue, bien propre. Là, au début, on aurait presque l'impression, si on prend le Connaissance Ultime en direct, que c'est peut-être un agresseur et pas du tout un agent officiel.
Oui, ben alors ça, je me rends compte que j'ai un tout petit peu imposé ça dans les croquis. Dans les croquis, pour moi, quand j'avais lu tout le découpage de Lewis, pour moi, le personnage, il y a plein de choses qui viennent, plein de réminiscences, c'est dur de lutter contre ça, et à mon avis, il faut même pas. Et il m'est venu le personnage de Sigourney Weaver dans Alien. Et donc, j'ai vu une femme qui pouvait être une belle femme, mais qui se présentait pas du tout comme ça. Donc, l'habit qu'elle a au début est presque un décalque, en tout cas de ceux dont je me souviens, je suis pas allé regarder des photos, mais un décalque du personnage de Sigourney Weaver dans Alien, et manifestement, ça convaincu suffisamment Lewis pour que quand je démarre, je la dessine comme ça dans les pages et ça allait. Et puis après, on m'a un petit peu rappelé à l'ordre, mais je pense que je me serais rappelé à l'ordre moi-même. C'est qu'une fois que par contre qu'elle partait dans l'espace, effectivement, il fallait qu'elle parte avec une combinaison qui était celle de l'Infinity. Mais au début, je pense que j'ai imposé ça, vous comprenez ce que je veux dire, c'est symbolique, hein, j'ai pas imposé grand chose dans les crowbars, et que ça devait être suffisamment convaincant pour que Lewis me laisse démarrer comme ça, quoi. Voilà.
Il y a souvent une histoire sur la couverture, le fait d'avoir trois personnages et justement de pas avoir la tête du plus grand, du plus menaçant a priori, il y a forcément avec l'ombre, etc., c'est pas un hasard, pour garder un peu de suspense. Vous avez travaillé comment, première proposition, ça marche ou...
Incroyablement décevant comme réponse. Pour moi, je suis très accroché à ce que je fais à l'intérieur de mon album, c'est très important pour moi, mais pour moi, il y a une chose qui appartient à l'éditeur, c'est la couverture. Pour moi, ça appartient à l'éditeur. Si l'éditeur n'est pas à l'aise avec la couverture, il aura du problème pour le défendre face aux représentants, face aux libraires, face à tout ça. Donc, je fais ce qu'on me dit pour la couverture. Donc, on a fait une première couverture qui était sur une idée de Lewis qui n'a pas convenu, c'est pas grave. On en a fait une deuxième qui était sur une idée de Vatine qui n'a pas convenu. Pour moi, c'était un peu plus grave parce que je la trouvais bonne, mais donc je l'ai un peu plus défendue, mais on est bien d'accord, c'était pas mon idée. J'étais vraiment, vraiment là-dessus, je considère que j'étais juste un exécutant. Mais je trouvais que l'idée était vraiment bonne, quoi. Mais elle n'a pas convenu. J'en ai fait une troisième très, très volontiers, toujours sur une idée d'Olivier Vatine, et qui a convenu. Et puis après, il y a eu, on a demandé des retouches de couleurs que Vatine a faites. En l'occurrence, c'est pas moi qui les ai faites, parce qu'il avait le fichier, que c'était très bien, et que voilà. Et puis après, en dernier recours, il y a eu aussi un recadrage. Moi, je l'avais dessiné avec le personnage en entier. Il s'avère qu'il y avait quelques complications ici entre le titre, les noms, la tête du personnage. Et donc Rue de Sèvres a préféré recadrer, et mon inquiétude était que le personnage en arrière-plan soit trop abstrait et qu'on ne se rende pas compte que c'est un personnage, mais manifestement ça n'a pas gêné, donc c'était une inquiétude qui avait pas de sens. Donc c'est aussi pour ça que je laisse faire l'éditeur sur les couvertures, parce que moi je n'en fais jamais qu'une par an, alors qu'eux en font 10, 20, 30 par an, ils savent mieux que nous, enfin mieux que moi en tout cas, voilà, mieux que moi. Voilà, donc exécutant sur la couverture.
Et je vous propose 5 objets, et vous pouvez en choisir un du coup parmi ces 5 objets. Vous avez le choix entre prendre les lunettes de Clark Kent, le panier du petit chaperon rouge, les chaussures de Marty McFly, le violon de Sherlock Holmes ou le chapeau de Indiana Jones. Vous prenez quoi ?
Oh, j'aurais adoré ça, puisque c'est une question un petit peu à la marge, hein, on est d'accord, je vais faire une réponse à la marge. Je vais pas faire cette réponse pour Sherlock Holmes parce que je n'ai jamais lu Sherlock Holmes. J'ai vu évidemment des adaptations et cinématographiques et télévisuelles, mais c'est un des regrets de ma vie de ne jamais avoir appris à jouer d'un instrument de musique. Alors on va prendre le violon de Sherlock Holmes juste pour cette raison. Voilà, parce que c'est une corde justement qui manque non pas à mon violon mais à mon arc. Voilà.
Un mot sur Angoulême et surtout sur vos séances de dédicaces, parce que l'ouvrage est sorti spécialement pour Angoulême. Qu'est-ce que les gens vous ont demandé? Comment ça s'est passé?
Alors écoutez, comme je suis très 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 mal élevé, je fais exactement ce que je veux en dédicace et ça se passe très bien. Les gens sont, sont eux très bien élevés. Donc ils sont très contents. Donc on me demande rien de particulier, c'est moi qui décide de faire. À vrai dire, en fait, pour les gens qui le regarderont, ils verront que cet album est un petit peu compliqué à dédicacer. Ça manque de place. Donc j'ai trouvé une idée assez astucieuse et j'ai l'impression que on va pas décrire cette idée, ça ne sert à rien. Mais j'ai l'impression que les gens la trouvent quand ils voient la dédicace assez astucieuse et donc ils sont plutôt contents pour intégrer ma dédicace dans ces endroits finalement assez réduits. Quel suspense. Nous quittons le public sur ce suspense.
Merci.
De rien.